Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture. Une mémoire radiophonique. Les Français connaissent mal les richesses de leur pays, disait-on au lendemain de la guerre, dans la tribune de Paris. Certes, les séjours touristiques n'avaient évidemment pas été très nombreux depuis quelques années, et puis la pénurie, les destructions multiples, les routes mal entretenues, tout cela n'incitait pas, en plus de raisons strictement économiques, à des explorations considérées comme lointaines. Mais l'idée était présente déjà. Il fallait aider le tourisme, les touristes, qui débarquaient en France, et les Français également touristes. Il fallait les encourager à partir à la découverte des richesses en question. Il fallait défendre le patrimoine naturel, monumental, artistique du pays. Inciter les touristes à s'intéresser à des villes très méconnues, telles Avignon. Si cette ville avait été exploitée, disait-on, elle aurait pu être une véritable Florence. Ou encore Arc-et-Senans, cet ensemble monumental laissé à l'abandon. Au lendemain de la guerre, 7800 monuments étaient classés. Une piste ? Faire voter une loi interdisant de détruire une maison qui aurait plus de 100 ans. Tribune de Paris, première diffusion sur la chaîne nationale, le 16 août 1946.
Tribune de Paris.
Les hommes, les événements, les idées à l'ordre du jour.
Une récente émission consacrée aux sinistrés a montré l'ampleur des problèmes de reconstruction en France et leurs répercussions sur le plan budgétaire.
Dans ces conditions, on peut se demander si l'État, qui, dans les années à venir, devra faire face à des solutions de première urgence, pourra s'attacher à la sauvegarde de notre patrimoine naturel et monumental.
On peut également se demander si ce patrimoine ne constitue pas une charge trop lourde, ou en d'autres termes, si son exploitation présente encore un intérêt pratique.
Si ce capital historique et sentimental n'est pas grevé de trop d'hypothèques pour ne pas être un fardeau très lourd.
À ces questions vont répondre ce soir quelques-uns de ceux qui ont consacré leur vie à la défense de notre patrimoine artistique.
Nous avons en ce moment autour du micro
Henri de Segogne, ancien commissaire au tourisme.
Marcel Raval, président du comité directeur de la Ligue urbaine et rurale.
Georges Pillemin, qui a écrit notamment Défense et illustration d'Avignon et Les hôtels de Paris.
Enfin, François Carvalho, délégué général de la demeure historique. Paul Guimard va mener le débat.
Eh bien, messieurs, voilà la question qui, si vous le voulez, pourrait servir de base à notre conversation de ce soir. Dans la situation présente, le patrimoine naturel et monumental de la France est-il encore susceptible d'apporter une contribution effective à la vie économique du pays? Et cette question, si vous le voulez, c'est d'abord à Marcel Raval que nous allons la poser.
Eh bien, je crois qu'en effet, le patrimoine naturel et monumental français est susceptible d'enrichir la France, et je crois qu'il faut envisager cette protection de notre patrimoine dans un sens différent de celui avec lequel on l'a envisagé jusqu'ici. Je crois qu'il faut que les monuments ne soient plus restaurés ou conservés pour être conservés, mais qu'ils aient une vertu active et une beauté militante.
Il faudrait d'abord, cher ami, qu'ils fussent connus.
C'est Henri de Segogne qui intervient.
Il faudrait d'abord qu'ils fussent connus. Il est absolument certain que les Français connaissent extrêmement mal les richesses de leur pays.
Georges Pillemin.
Vous avez raison, cher ami, notre patrimoine est non seulement mal connu, mais mal exploité. Combien d'églises romanes qui sont ignorées du public, combien de châteaux magnifiques que l'on ne permet pas de visiter, et combien encore d'édifices, châteaux ou abbayes sont aux mains des militaires qui en interdisent la visite. Il y a des villes, là, j'ai consacré récemment un livre entier à Avignon, parce que c'est un exemple type.
Le château des papes.
Le château des papes est devenu maintenant un lieu de visite après avoir été pendant 150 ans une caserne, mais il y a encore à Avignon des églises qui sont aux mains des militaires qui servent de magasins d'habillement. si cette ville était exploitée d'une façon touristique, ça aurait pu être comme une véritable Florence, alors que c'est une ville dans laquelle on ne fait que s'arrêter 24 heures.
Mais ce n'est pas la peine d'aller jusqu'à Avignon, c'est le cas des Invalides à Paris.
Et de tous les hôtels du Faubourg Saint-Germain, du Marais, que l'on ne connaît pas, les étrangers pourraient passer 8 jours de plus à Paris, rien que pour visiter nos hôtels particuliers.
Mais après l'exposition des pierres précieuses que nous avons organisée, nous avons pu nous rendre compte que ça avait été pour l'ensemble des Parisiens une véritable révélation.
Révélation, absolument.
Donc d'abord connaître son capital avant de songer à l'exploiter.
Mais c'est certain.
Mais en admettant que cette connaissance soit parfaite, elle ne sera sans doute jamais, comment envisagez-vous cette exploitation? Et là, nous revenons à notre question de base. Croyez-vous que ce capital puisse apporter une contribution à la vie économique du pays? Je pose la question à Henri de Segogne.
Il suffit pour s'en convaincre, il suffit de considérer le cas de l'Italie, qui tirait l'essentiel de ses ressources touristiques qui étaient considérables, de l'exploitation des monuments, des musées, d'une façon générale, des œuvres d'art qui se trouvent réparties sur son sol.
Mais l'Italie avait une très grande publicité, et faite depuis peut-être plus de 60 ou 80 ans.
Nous sommes très en retard.
C'est maintenant François Carvalho qui intervient. Et alors précisément, comment envisagez-vous cette publicité, cette exploitation, puisqu'il faut employer le mot?
Mais il faudrait la placer sur le plan national, au lieu que maintenant nous sommes encore sur un plan très fractionnaire et qu'il y a des initiatives fort intéressantes, mais purement locales, de telle ou telle ville, et que les budgets sont réduits. Le jour où la France voudra consacrer plusieurs milliards à sa publicité, ou plutôt à sa mise à sa propagande, eh bien elle fera quelque chose qui se tient.
En d'autres termes, il faudrait d'abord que l'administration chargée de la surveillance et de l'entretien des monuments historiques voulût bien les connaître, et pour cela procéder à un recensement général, en déterminant des catégories d'intérêt. Les plus intéressants d'abord, et ensuite en descendant vers, je ne dirais pas les moins intéressants, puisque par définition, tous sont intéressants.
Une échelle des valeurs.
En outre, il faudrait alors, en s'intéressant d'abord aux monuments les plus intéressants et les plus importants, procéder aux restaurations nécessaires. Troisièmement, il faudrait faire en quelque sorte un catalogue de ces richesses et en faire des affiches, en faire des prospectus, affiches à être présentées dans les gares, prospectus destinés à être déposés dans les bureaux français de tourisme à l'étranger, dans les agences de voyage, avec des circuits, des itinéraires prévus, confectionnés de façon à aider le touriste débarquant en France, et je dirais même le français, à connaître les lieux dont on lui propose la visite, et avec les instruments, on peut dire graphiques, à sa disposition pour mieux faire ce voyage.
Marcel Raval.
Eh bien, évidemment, il y a les monuments qu'il faut mieux connaître, mais parmi les monuments qui sont bien connus, comme Versailles par exemple, croyez-vous que le fait de visiter le château de Versailles est une façon suffisante d'en montrer la richesse et les possibilités?
Donc, c'est même très attristant dans une certaine mesure.
Versailles est une ville morte, c'est un décor absolument solennel et froid. Or, il y a un projet qui est fort ancien, et dont Paul Valéry et Édouard Bourdet ont parlé en leur temps, qui consiste à créer à Versailles un festival français qui serait l'équivalent de Stratford ou de Malvern en Angleterre, de Salzbourg ou de Bayreuth en Allemagne, de Florence ou de Venise en Italie. Versailles possède par exemple le plus beau théâtre du monde, qui est le théâtre de Gabriel. Il possède le théâtre de la Montantier. Il possède dans le parc les théâtres de verdure des Rocailles, les bosquets de la Colonnade et de l'Obélisque.
Les grandes et les petites écuries.
Et tout cela pourrait servir à un cadre, à des rétrospectives également de nos grands peintres, de nos sculpteurs et de nos décorateurs, et amener un public considérable chaque année en France.
Mais pour Raval, qui venait d'écrire et publier un livre aussi remarquable sur le Doubs, eh bien, Arques-et-Sedan, c'est un véritable scandale de voir un ensemble monumental aussi extraordinaire,
absolument inconnu des Français,
et laissé dans l'abandon.
Alors donc, il y a un programme, pour employer un mot un peu technique, d'affectation de nos monuments.
Écoutez, François Carvalho, je m'excuse de vous interrompre et de faire preuve d'un esprit d'escalier, mais Marcel Raval a prononcé tout à l'heure le nom d'Arques-et-Senans. De quoi s'agit-il exactement? Non, ce n'est pas Marcel Raval, c'est Henri de Segogne, je crois. De quoi s'agit-il exactement?
Eh bien, il s'agit en réalité d'une ville industrielle qui a été construite autour des salines d'Arc-et-Senans, des Salines Royales, d'Arc-et-Senans.
À la fin du XVIIIe siècle.
Et dont Raval va vous conter l'histoire, puisqu'il vient de traiter le problème.
Je vous en prie, Marcel Raval.
Eh bien, Arc-et-Senans est une ville idéale. Le Doubs voulait construire Arc-et-Senans une ville idéale en prenant pour base l'exploitation des salines qui s'y trouvaient. Il a construit un ensemble de bâtiments de forme circulaire qui sont une chose absolument admirable et qui malheureusement ont été laissés à l'abandon, dont on a fait des camps de concentration pour les Romanichels et qui actuellement n'est occupé par personne.
Mais on pourrait du reste leur donner une affectation d'ordre public, soit en y installant un haras, soit en y installant, je crois qu'il en avait été question jadis, du reste, soit en y installant une école de moniteurs.
Et elle est située à quel endroit, je m'excuse?
Près de Besançon.
Près de Besançon.
Bon, alors maintenant... Ça rejoint d'une façon générale, du reste, les préoccupations qui sont chères à Piment et qui a milité déjà en vue d'un plan d'affectation des édifices à sauvegarder.
Mais on peut trouver pour chaque édifice une affectation absolument en rapport avec son caractère. Par exemple, nous avons été récemment conviés, quelques journalistes français et étrangers, à visiter la Touraine, et nous avons vu le château de Villandry que notre ami François Carvalho a su ne pas faire empêcher de tomber aux mains de spéculateurs et qui désire en faire une villa Médicis des Jardins. Le docteur Carvalho avait su établir autour de ce magnifique château de la Renaissance qu'il a remis dans son intégrité une série de jardins magnifiques qui pourraient servir pour nos jardiniers et nos architectes paysagistes de terrain d'expérience.
Alors, il est bien évident que ce capital existe, personne ne discute la question, et qu'il faut qu'il soit mieux connu. Mais ceci dit, est-ce que quelque chose risque de le menacer pour une cause ou pour une autre? Marcel Raval.
Il est menacé.
Alors, je m'excuse, c'est Georges Pilement qui
répond. Il est menacé par l'augmentation du coût de la vie, par les impôts qui grèvent les propriétés, et notre ami Carvalho, qui, à la demeure historique, se fait le défenseur des châtelains, peut vous exposer son projet, justement, pour la défense des châteaux de France.
Alors, je vous en prie, François Carvalho.
Notre patrimoine est menacé parce que le propriétaire n'a plus les moyens de tenir cette portion, ce patrimoine qu'il a entre les mains. Il faut donc, à tout prix, lui donner ses facilités. Il les aurait encore si la fiscalité n'était pas dévorante. Et on peut remarquer que la fiscalité ignore l'objet d'art qui est la richesse essentielle de la France puisque c'est une richesse irremplaçable. Un industriel, et c'est fort logique, je m'excuse de rentrer dans le détail,
non, mais je vous en prie,
peut déduire du chiffre d'affaires annuel les sommes qu'il dépense pour repeindre la cheminée qui déshonore le paysage, pour réparer ce qui a été abîmé, pour refaire toute l'installation des machines. Mais un propriétaire d'un monument dont le rayonnement est non seulement national mais international ne peut rien déduire de son revenu, de sorte qu'il est amené à abandonner, nous allons vers la disparition du château, et l'État, qui jusqu'à présent n'a pas été assez compréhensif, va se trouver devant le fait suivant, c'est que le château ne paiera plus d'impôts.
Il n'y a pas que les châteaux du reste.
C'est Henri de Sedan qui parle.
Car d'après les statistiques qui ont été établies, il semble bien que les dégradations du fait de la guerre atteignent une valeur de 40 milliards environ. Or, la dotation accordée par le ministère des Finances à la direction des monuments historiques est de 50 millions. De 500 millions. De telle sorte qu'il y en a pour 80 ans. Et il est bien certain que la plupart des monuments historiques qui ont été gravement endommagés pendant la guerre ne résisteront pas ces 40 années ou ces 80 années. Mais c'est certain.
Je me permets de couper.
Je vous en prie, c'est François Carvalho qui demande la parole.
Il n'y a pas que le monument qui passe, si j'ose dire, en premier lieu, qui a été abîmé par la guerre. Il peut avoir le monument qui n'a pas subi directement les dommages de guerre, mais qui n'a pas pu être entretenu pendant 6 ans et qui est en train de s'effriter complètement. Alors c'est beaucoup plus de 80 milliards, c'est peut-être une somme encore beaucoup plus considérable. Ce point me paraît essentiel.
Il faudrait peut-être dire à nos auditeurs que le patrimoine français a tout de même été très largement entamé par la guerre, et que sur les 7800 monuments classés, qui ne représentent d'ailleurs pas tout le patrimoine monumental français,
à beaucoup près,
il y en a 2115 qui ont été détruits ou endommagés.
Mais alors précisément, messieurs, vous venez d'aborder la question argent. Il n'y a pas moyen d'y échapper. Pour préserver ce capital, il faut de l'argent. Or, la France se trouve en ce moment dans une situation financière plutôt fâcheuse. La reconstruction française exige, nous dit-on, 9 000 milliards ou quelque chose de cet ordre. Par conséquent, est-ce que ce capital naturel et monumental vaut le sacrifice d'argent qu'on doit faire pour lui? En d'autres termes, est-ce que ce ne sera pas un boulet qu'on traînera? Et est-ce qu'en dehors de son intérêt sentimental, sa valeur marchande, si j'ose employer ce vilain mot, mérite les sacrifices que vous demandez?
Mais il est hors de doute que le tourisme et toutes les industries qui résultent du tourisme étant appelées à être...
Voulez-vous me permettre d'indiquer que c'est Henri de Segogne qui répond?
Le tourisme, dis-je, et toutes les industries qui gravitent autour du tourisme étant appelées à prendre une importance capitale au lendemain de la guerre, il est absolument certain que les ressources à provenir de l'exploitation des monuments historiques justifie largement, indépendamment du fait qu'il y a pour notre pays le devoir essentiel de sauvegarder une richesse qui n'est pas simplement nationale mais internationale et commune à tous les peuples de l'Occident, eh bien je suis convaincu que les ressources à provenir de ce tourisme justifieront les sommes même considérables à première vue qui seraient employées pour leur restauration et leur réparation.
Marcel Raval.
Eh bien, je suis tout à fait d'accord. Je crois que la richesse française ne doit pas être stagnante, ne doit pas être improductive. Elle doit circuler comme la monnaie et dans le sens d'un circuit que le tourisme, que la direction des beaux-arts devrait déterminer. Tout monument doit être enrôlé, en quelque sorte, dans une croisade pour le prestige français et chacun doit avoir sa place, son affectation et je dirais même son grade. Il ne faut pas qu'il y ait des monuments, comment dirais-je, exemptés, des tirs au flanc ou des réformés pour constitution délicate.
François Carvalho.
Il faut donc remettre le monument dans le circuit de la vie intellectuelle et économique française. Et je ne sais pas s'il y a dans les ministères des gens qui aiment les statistiques, mais on pourrait suggérer à l'un d'eux d'essayer de voir combien la place Vendôme rapporte à Paris depuis qu'elle est créée. Eh bien, c'est ça le point essentiel, et ce qu'on n'a pas encore compris.
Georges Pillemont.
Je crois qu'il convient que la direction de l'architecture ait la haute main sur la conservation de notre patrimoine architectural, et il faudrait une loi qui interdise de démolir toute maison ayant plus de 100 ans. Parce que nous n'avons plus le droit, maintenant, avec les pertes que nous avons subies du fait de la guerre, de rien détruire de ce patrimoine.
Et d'autre part, messieurs, il vous faudrait des crédits. Henri de Segogne.
Enfin, d'une façon générale, c'est toute une politique des monuments historiques et de l'exploitation des monuments historiques par le tourisme qu'il s'agit de mettre sur pied. Et sans oublier une campagne, un programme de formation du public. Tout ce que nous ferions, quelques amis et moi, et avec l'aide des administrations publiques, ne servirait de rien si nous ne trouvions pas auprès du public, auprès de la nation, le concours qui est indispensable. Il faut que les gens, les individus, comprennent d'une façon générale et d'une façon particulière qu'ils sont intéressés à la sauvegarde des monuments qui constituent la beauté de leur ville. Bien sûr, ceci comporte également l'aide de la presse, l'aide de toutes les associations qui se sont proposées d'aider à la sauvegarde du patrimoine artistique de la France.
Vous avez déjà l'aide de la radio, d'ailleurs.
Je vous en remercie, c'est un appui puissant, mais je crois que des associations comme celle que dirige notre ami Raval peut jouer un rôle considérable, à condition, bien entendu, qu'elle puisse trouver une audience suffisante auprès d'un public très vaste, très étendu, qui est le public en général.
Marcel Raval.
Eh bien, en effet, la Ligue urbaine et rurale a un but qui est de veiller à la sauvegarde du patrimoine, mais je crois que ce que nous voulons surtout, c'est renouveler l'esprit et les méthodes qui ont prévalu jusqu'ici dans la sauvegarde de notre patrimoine monumental. Et cette protection n'aura de sens que si elle s'intègre dans un vaste plan constructif, dans une politique de prestige et d'éducation.
Eh bien, messieurs, voulez-vous que nous laissions maintenant le mot de la fin à Francis Carvalho, à François Carvalho, je m'excuse.
Il est très difficile de résumer ce débat, mais le point essentiel, et tous les amis qui sont ici partageons cette opinion, il faut que les Français comprennent, et aux administrations, que tout ce qui est artistique, notre trésor d'art, représente la fortune de la France, et que cette fortune n'ira qu'en s'augmentant, et qu'elle est mise au service de tous lorsqu'on sait comprendre les choses.
Henri de Segogne, Marcel Raval, Georges Pillement et François Carvalho viennent de vous entretenir de l'exploitation du patrimoine naturel et monumental de la France.
Vous venez d'entendre La Tribune de Paris, une émission du journal parlé de la radiodiffusion française.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur la chaîne nationale le 16 août 1946. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.
Mère des gens sans inquiétude, mère de ceux que l'on diffame, mère des saintes habitudes, princesse des gens sans mort. Salut à toi, dame bêtise, toi dont le règne est méconnu. Salut à toi, dame bêtise, mais dis-le-moi, comment fais-tu pour avoir tant d'amants et tant de fiancés, tant de représentants et tant de prisonniers, pour tisser de tes mains tant de malentendus et faire croire aux crétins que nous sommes vaincus, pour fleurir notre vie de basses révérences, de mesquines envies, de noble intolérance, de mesquines envies, de noble intolérance, de mesquines envies, de noble intolérance. Mère de nos femmes fatales, mère des mariages de raison, mère des filles à succursale, princesse pâle du vison. Salut à toi, dame bêtise, toi dont le règne est méconnu. Salut à toi, dame bêtise, mais dis-le-moi, comment fais-tu pour que point l'on ne voit le sourire entendu qui fera de vous et moi de très nobles cocus, pour nous faire oublier que les putains, les vrais, sont celles qui font payer, pas avant mais après, pour qu'il puisse m'arriver de croiser certains soirs ton regard familier au fond de mon miroir, ton regard familier au fond.